Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, les amyloses cardiaques. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Christophe Escher. Docteur Escher, bonjour.
Bonjour.
Docteur Escher, vous êtes cardiologue, praticien hospitalier au sein du service de cardiologie du CHU de Dijon, où vous êtes responsable du centre de référence des cardiomyopathies et des troubles du rythme cardiaque héréditaire ou rare. Alors, docteur Escher, ma première question est très simple. Qu'appelle-t-on amylose cardiaque ?
Eh bien, l'amylose est une maladie qui est liée à des dépôts extracellulaires de substances amyloïdes. Cette substance est constituée de protéines qui ont perdu leur structure normale, tridimensionnelle. Ils ont une configuration bêta-plissée qui leur confère une capacité à s'assembler sous forme de fibrilles et à s'accumuler dans les tissus. Alors, il y a donc différents types de protéines qui peuvent être des précurseurs de fibrilles amyloïdes. Une vingtaine ont été identifiées, mais les deux les plus fréquentes sont les chaînes légères des immunoglobulines qui conduisent à l'amylose AL et la transthyrétine qui donne l'amylose TTR. Et il existe deux types d'amylose TTR. Une forme héréditaire qui est liée à une mutation du gène codant pour la transthyrétine de transmission autosomique dominante et une forme acquise qu'on appelle sénile ou sauvage. La prévalence de cette maladie est mal connue, probablement sous-estimée. Pour l'amylose AL, on considère que 10% des patients de plus de 60 ans vont développer une galénopathie monoclonale, mais seuls 1 à 2% vont se compliquer d'amylose. Pour l'amylose TTR, les sérotoxiques rapportent des dépôts amyloïdes chez environ 25% des sujets décédés depuis 80 ans, et il existe une forte prédominance masculine. La présentation clinique elle est souvent trompeuse parce qu'on a affaire généralement à un patient âgé chez lequel tout risque d'être considéré comme banal. Et donc, dans au moins un tiers des cas, le diagnostic initial va être erroné. Cardiopathie hypertensive, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, cardiomyopathie hypertrophique, cardiopathie ischémique ou même sténose aortique banale. Et ces errances diagnostiques sont regrettables car pendant ce temps, le processus d'amylogénèse s'auto-alimente et les dégâts deviennent irréversibles parce qu'il faut savoir que les fibrilles amyloïdes sont toxiques pour les cardiomyocytes. Et le pronostic est très défavorable, notamment dans les amyloses AL avec atteinte cardiaque où la médiane de survie est de 6 mois en l'absence de traitement. Bon, dans l'amylose TTR, l'espérance de vie est un peu meilleure, de 2 à 6 ans après le diagnostic.
Et en termes de symptomatologie, docteur Escher, quels sont les principaux signes cliniques observés chez ces patients atteints d'amylose cardiaque ?
Eh bien, il n'y a pas de signe cardiaque spécifique de l'amylose. C'est bien là la difficulté. Le profil de l'amylose cardiaque, c'est celui d'une cardiomyopathie infiltrative, donc qui va rigidifier les parois cardiaques, altérer les voies de conduction électrique, et donc ça va entraîner des symptômes d'insuffisance cardiaque avant tout, dyspnée d'effort, fatigue, œdème. La particularité, c'est qu'il s'agit d'une insuffisance cardiaque à AFEVG préservée, sauf bien sûr dans les formes très évoluées. Et un élément important, c'est que la plupart des médicaments d'insuffisance cardiaque sont contre-indiqués ou mal tolérés dans cette pathologie, et d'où l'importance d'un diagnostic correct afin de ne pas risquer d'aggraver les choses avec des traitements inappropriés. Ça, c'est pour l'insuffisance cardiaque. Autre présentation clinique qu'on considère aussi bien souvent comme banal chez le sujet âgé, c'est la fibrillation atriale. Le rôle de l'amylose est probablement sous-estimé et la prévalence de l'AFA dans l'amylose cardiaque, notamment TTR, est très élevée. Ce trouble du rythme, il va favoriser l'insuffisance cardiaque et bien sûr exposer à un risque thromboembolique. Et donc, on comprend que le mode de révélation peut aussi être un AVC. Autre complication rythmologique possible, un trouble conductif paroxystique qui va se révéler par une syncope. Et puis le mode de révélation peut être aussi une mort subite, soit par BAV, soit par arythmie ventriculaire, voire par dissociation électromécanique. Enfin, il peut y avoir des douleurs thoraciques évocatrices d'angor qui peuvent être liées à une atteinte microvasculaire de l'amylose.
Et face à un patient qui présente des troubles cardiaques, quels sont les principaux signes d'alerte qui devraient faire évoquer une amylose cardiaque ?
Alors, bien sûr, c'est une question essentielle. Il faut déjà y penser dans les populations à risque, donc au cours des galénopathies monoclonales, pour dépister l'amylose AL, il faut réaliser systématiquement un échocardiogramme, même s'il s'agit d'une MGUS, parce que la découverte d'une amylose va modifier la prise en charge thérapeutique. C'est absolument essentiel parce que cette forme d'amylose comporte le plus mauvais pronostic, on l'a vu. Pour la TTR, il faut savoir y penser devant toute hypertrophie ventriculaire gauche, même chez un hypertendu, et plus particulièrement dans certaines populations. Alors, notamment, dans la population d'origine africaine, il y a un variant génétique VAL122IL, qui est un variant qui prédispose aux formes cardiaques d'amylose héréditaire, et la prévalence est très élevée dans cette population. Autre population à risque, on l'a dit, l'insuffisance cardiaque à FEG préservée. Et là, il faut savoir que les études autopsiques et d'imagerie ont montré que 15 à 20% des patients présentant une insuffisance cardiaque à FEG préservée avaient en réalité une amylose. Une autre population à risque, ce qui peut paraître insolite, c'est le rétrécissement valvulaire aortique. L'association avec l'amylose n'est probablement pas uniquement fortuite. Et si on réalise des examens d'imagerie chez des patients adressés par exemple pour TAVI, on met en évidence une amylose chez 16% d'entre eux. Il y a un élément important, c'est que les sténoses aortiques associées à une amylose sont souvent des formes à bas débit, bas gradient paradoxal, c'est-à-dire bas gradient malgré une FEVG normale, ce qui doit attirer l'attention. Alors, dans ces populations à risque, et même de façon générale, quels sont les signaux d'alerte qui doivent attirer l'attention? Eh bien, d'abord, des signes cliniques évocateurs pouvant témoigner d'atteinte extracardiaque, comme des signes cutanés ou muqueux, une macroglossie, des ecchymoses périorbitaires qui sont plus fréquents dans les amyloses AL. Dans la TTR, ce sont des signes d'atteinte ténosynoviale qui doivent être recherchés, notamment des antécédents du syndrome du canal carpien opéré, un canal lombaire rétréci, une rupture spontanée du tendon du biceps ou une maladie de Dupuytren. Ces atteintes, il faut le savoir, peuvent précéder de plusieurs années l'atteinte cardiaque. Les autres atteintes à rechercher, c'est par exemple une neuropathie périphérique, une dysautonomie avec hypotension orthostatique et même une surdité qui est pourtant banale chez le sujet âgé mais qui est quasi constante dans l'amylose et qui peut être à la fois de transmission et de réception. À côté de ces signes cliniques, l'ECG peut aussi orienter la suspicion en cas d'aspect de QS, de pseudo-infarctus dans les précordiales droites. Un microvoltage, qui n'est présent que dans environ 20% des cas, mais déjà la simple absence de signes électriques d'hypertrophie chez un patient ayant une cardiomyopathie hypertrophique doit attirer l'attention. Et puis enfin, sur le plan biologique, pas de marqueur spécifique, mais un BNP augmenté de façon disproportionnée, une élévation discrète de la troponine peuvent suggérer le diagnostic.
Et en complément de ces signes d'alerte, docteur Escher, est-ce qu'il existe des signes évocateurs de gravité de la maladie?
Alors, les signes de gravité, c'est bien sûr avant tout les signes d'insuffisance cardiaque congestive. On dit parfois que lorsque les signes d'insuffisance cardiaque apparaissent, il y a déjà 25% de la masse myocardique qui a été remplacée par des fibres amyloïdes. Alors, c'est évidemment difficile à vérifier, mais ça souligne l'importance de réaliser un diagnostic précoce. Alors, ce sont les marqueurs biologiques qui permettent de stratifier le pronostic. Dans l'amylose AL, la troponine et le NT-proBNP sont utilisés dans un score qui a été établi par la Mayo Clinic, avec trois stades selon que 0, 1 ou les deux biomarqueurs sont augmentés. Les patients en stade 3, c'est-à-dire que les deux biomarqueurs élevés ont un risque de mortalité qui est multiplié par plus de 3 par rapport aux patients dont les deux biomarqueurs sont inférieurs au seuil. Et puis dans l'amylose TTR, on peut aussi tenir compte du débit de filtration glomérulaire couplé au NT-proBNP et on obtient là aussi un score en trois stades. Le stade 3, c'est si le NT-proBNP est supérieur à 3000 picogrammes par millilitre et le DFG inférieur à 45 millilitres par minute, c'est une valeur pronostique péjorative.
Alors pour terminer notre entretien, docteur Escher, face à des signes cliniques évocateurs, quels examens prescrire pour réaliser le diagnostic?
Eh bien, quand une amylose cardiaque est suspectée, le premier examen à réaliser, c'est une échocardiographie. C'est un examen qui va nous apporter beaucoup de renseignements sur l'hypertrophie, l'échogénicité particulière du myocarde, la fonction diastolique et systolique, et puis un aspect très spécifique en 2D strain, qui est l'altération de la déformation longitudinale basale, qui contraste avec une préservation durable de l'apex. Un autre examen d'imagerie est intéressant, c'est l'IRM cardiaque. Les dépôts d'amylose vont être visualisées après injection de gadolinium avec un rehaussement tardif, soit global transmural, soit sous-endocardique diffus, très évocateur. Une fois qu'on a réalisé ces deux examens d'imagerie, on a généralement acquis une forte présomption d'amylose. Et là, la priorité, c'est d'éliminer d'abord une amylose à elle, parce que le pronostic est rapidement défavorable. On va donc réaliser un bilan de gammapathie monoclonale complet, qui doit comporter une immunofixation des protéines sanguines et urinaires et un dosage de chaîne légère libre kappa et lambda. En cas de gammapathie monoclonale avérée, le patient sera bien sûr adressé à un hématologiste pour compléter le bilan. Et là, il faudra généralement confirmer histologiquement par une biopsie soit superficielle, soit d'un organe atteint. Si le bilan de gammapathie est normal, il faut alors réaliser une scintigraphie aux diphosphonates, qui sont des marqueurs traditionnellement utilisés comme traceurs osseux, mais qui présentent une forte affinité pour la transthyrétine. On va regarder l'intensité relative de fixation cardiaque par rapport à l'os, et on va aussi obtenir un score qui est dit de score de péruginie, qui va de 0 à 3, et une scintigraphie positive avec un score de péruginie supérieur ou égal à 2 en l'absence de gammapathie monoclonale à valeur de biopsie, et donc permet d'affirmer l'amylose TTR. Et dans ce cas-là, il restera alors à réaliser le séquençage du gène TTR afin de savoir s'il s'agit d'une forme mutée ou sauvage. Et on rappelle que l'amylose TTR génétique se transmet de façon autosomique dominante et que sa mise en évidence va permettre un dépistage et un suivi chez les apparentés.
Eh bien, merci mille fois, docteur Escher, de nous avoir éclairé sur les amyloses cardiaques. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite.